Vous êtes sur RTL.
18h. Et c'est parti pour 2 heures d'infos avec vous Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Quand un ancien chef de l'État veut soigner le pays, cet ancien président c'est François Hollande qui revient avec un livre. Il s'appelle « Répondre à la crise démocratique ». François Hollande, invité exceptionnel d'RTL Soir. Il est votre invité aussi car vous pourrez lui poser vos questions et dialoguer avec lui sur tous les sujets. Et pour ce faire, vous nous appelez dès maintenant au 3210. François Hollande qui sera avec nous à partir de 18h15. Pour les autres grands titres de l'actualité, on voit ça avec vous Sophie Orange. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. La situation va s'améliorer sur le TGV Atlantique. La SNCF annonce 8 trains sur 10 à partir de jeudi. Même si la grève continue au technicentre de Châtillon, des rames vont être affrétées depuis d'autres lieux de maintenance de la région parisienne. On va tout vous expliquer dès le début de ce journal, depuis la cellule de crise de la SNCF. La République française est une union de gens qui ne sont pas semblables et qui ne croient pas la même chose, mais qui partagent les mêmes valeurs. Édouard Philippe à l'Assemblée nationale cet après-midi en pleine polémique sur le voile. À Bayonne, l'agresseur de la mosquée est toujours entendu. Son état psychique pose question. C'est une information RTL. Les restaurateurs pourront manger gratuitement dans leur restaurant sans payer de charges. Deux chefs viennent de se faire épingler par l'URSSAF. Stop, dit Gérald Darmanin. Un super contrat pour Airbus, une compagnie indienne low cost, commande 300 nouveaux A320. Gilles Simon abandonne au Masters 1000 de Paris, blessé aux adducteurs. Qualification cet après-midi de Moutet. Humbert joue en ce moment, fera le point à la fin de ce journal. La Bourse de Paris termine ce soir en petite hausse, plus 0,17%. Le CAC s'établit à 7 740 points. Les courses à Maison Lafitte, il fallait jouer le 7, le 6, le 10, le 12, hélas.
La météo, c'est avec vous, Patricia Charbonnier. Bonsoir Patricia.
Bonsoir.
Si je prends le qualificatif maussade, ça colle bien pour demain?
Je me répète un petit peu, mais c'est toujours la même chose. Et ce sera encore maussade toute la journée sur la moitié nord du pays, avec encore quelques pluies et même une nouvelle dégradation pluvieuse avec des pluies soutenues demain après-midi par le nord-ouest. Sur la moitié sud, beaucoup de grisailles demain matin, toujours des nuages bas et des brouillards et puis un peu plus de soleil ensuite. Entre les Alpes, la Méditerranée et près des Pyrénées, les températures fraîches encore. 4 degrés seulement demain matin à Lille, mais 15 à Perpignan et de 8 à 23 dans l'après-midi, 8 à Colmar, 10 degrés à Paris et un maximum de 23 à Ajaccio.
Merci Patricia, à tout à l'heure.
Thomas Soto, RTL Soir.
Bonne nouvelle donc pour tous ceux qui empruntent le TGV Atlantique. La SNCF annonce 8 TGV sur 10 à partir de jeudi. Les vacanciers de l'Ouest et du Sud-Ouest pourront donc rentrer. Peut-être pas forcément une bonne nouvelle pour eux d'ailleurs.
Enfin bon. Quand même, à un moment il faut rentrer Sophie.
C'est beaucoup mieux que ces derniers jours avec 3 trains sur 10 seulement. Et pourtant la grève continue puisque le technicentre de Châtillon est toujours bloqué par 200 grévistes sur 600. Ils étaient une cinquantaine à manifester devant le siège de la SNCF en début d'après-midi pour tenter un début de négociation. Refus de la direction, d'où cet échange tendu avec un syndicaliste de Sudrail.
Nous, on vient pour trouver une solution, on vient vous voir et vous, vous nous dites « Ah, on ne peut pas vous recevoir ».
Vous êtes en train de nous expliquer que vous refusez de sortir de ce conflit. Vous ne pouvez pas aller crier dans la presse et dans les médias que c'est des mauvais cheminots, que c'est pas sérieux ce qu'ils font et qu'ils sont en train de gâcher les vacances de tout le monde et que ce sont des irresponsables et qu'aujourd'hui, vous refusez de les recevoir.
Cet échange entre un gréviste et un représentant de la SNCF pris sur le vif par Sinamir pour RTL.
Et pendant ce temps-là, vous le disiez, la SNCF s'organise pour essayer de faire rouler le plus de trains possible. Et on annonce donc 8 TGV sur 10 d'ici la fin de la semaine sur l'axe Atlantique.
Anne Le Hénaff, vous avez passé l'après-midi au cœur de la cellule de crise à Montparnasse. Comment le trafic peut-il s'améliorer à ce point-là aussi vite?
Eh bien, en empruntant des rames à d'autres zones géographiques, cette cellule de crise, 8 personnes, les trains un peu tirés autour d'une table, coordonne tout ça. Éric Délinger dirige et le directeur de production de l'axe TGV Atlantique.
Il y a des rames qui vont arriver effectivement de l'est, du nord, du sud-est, qui vont venir renforcer le parc atlantique au départ de Montparnasse ou des autres grandes gares. On travaille à peu près 2 à 3 jours à l'avance.
Ça laisse le temps de prévenir les voyageurs, les nombreux voyageurs de cette fin de semaine. Gwendoline Cazenave, directrice de l'axe Atlantique, scrute un grand tableau blanc effaçable.
Vous le voyez, hein, là on a le nombre de clients, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On a 320 000 clients qui doivent voyager ce week-end. C'est vraiment notre priorité. C'est ici qu'on déclenche tous les mails personnalisés, les SMS personnalisés aux clients, à la fois pour les clients dont les trains sont supprimés, mais aussi pour les clients dont les trains sont maintenus, de façon à les rassurer.
Et cette cellule restera active au moins tout ce week-end. Il faudra après rendre chaque TGV à sa zone géographique.
Anne Le Hénaff en immersion au technicentre de Châtillon pour RTL.
Dans l'actualité également, des semaines de polémiques sur le voile, l'attaque à la mosquée de Bayonne, Emmanuel Macron qui reçoit la communauté musulmane à l'Élysée. Il n'en fallait pas plus pour que que le débat s'enflamme cet après-midi à l'Assemblée, Sophie.
Et le Premier ministre a répondu à une question de Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France insoumise. L'occasion pour Édouard Philippe de rappeler quelques grands principes.
Il me paraît que dans une démocratie mûre comme la nôtre, dans une République sûre de ses principes, nous pourrions tous ensemble considérer qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Et qu'à chaque fois que l'on pointe telle ou telle confession ou telle partie du peuple, alors on appauvrit ce qu'est la République, c'est-à-dire une union, une nation, un plébiscite de tous les jours de gens qui ne sont pas semblables, qui ne croient pas la même chose, qui ne se ressemblent pas tous, mais qui sont unis dans les valeurs de la République et dans le respect de la loi.
Le Premier ministre au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire.
Il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. On verra ce qu'en dit François Hollande dans quelques minutes en direct dans RTL Soir.
Et au lendemain de l'attaque de Bayonne, le procureur de la République a fait le point sur l'enquête. L'agresseur présumé voulait venger la destruction de la cathédrale de Paris. Un homme de 84 ans, psychiquement fragile, c'est en tout cas ce qui ressort de ses premières auditions. Les deux personnes blessées sont toujours à l'hôpital. Leurs proches ont pu leur rendre visite, Philippe Demaria.
Et oui, le pronostic vital des deux victimes n'est plus engagé, mais on évoque des séquelles fonctionnelles lourdes. Les deux septuagénaires sont hospitalisés à Bayonne. Kader Boisa vient de leur rendre visite sur leur lit d'hôpital.
Ils relèvent la tête, ils ont discuté avec moi, ils m'ont raconté un petit peu comment ça s'est passé. Ils s'en souviennent un petit peu. Voir cette personne qui est arrivée directement à la mosquée, se dirigeant avec un pistolet à la main, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui voulait jouer au cow-boy. Ils ne se sont pas rendus compte que c'était quelqu'un qui venait pour leur tirer dessus. Et donc, il a tiré sur le premier, après il a tiré sur le second. Ils disent qu'ils ont eu de la chance. C'est vrai qu'ils sont éprouvés par rapport à l'opération elle-même. Ils se disent que l'essentiel, c'est d'être vivant. L'essentiel, c'est qu'on est vivant.
Et pour ce qui est de l'auteur de l'attaque chez lui, les enquêteurs de la PJ ont retrouvé un fusil à pompe et une autre arme de poing en garde à vue. Il reconnaît les incendies de la voiture et de la porte de la mosquée, mais il réfute toute volonté de tuer malgré les tirs directs sur ses deux victimes avec une arme de poing de gros calibre. Il justifie donc son attaque par une vengeance contre l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Il va être examiné par un psychiatre.
Merci beaucoup Philippe Demaria, l'envoyé spécial de RTL à Bayonne. Le gouvernement annoncera le 25 novembre prochain des propositions concrètes contre les violences conjugales. Une soixantaine de propositions ont été présentées ce matin par plusieurs associations à Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Les restaurateurs vont avoir le droit de manger dans leur propre établissement. Alors, dit comme ça, ça paraît évident, un peu absurde, sauf que deux professionnels viennent d'être lourdement redressés par l'URSSAF.
14 000 euros pour un chef cuisinier de la Guadeloupe, 13 000 euros pour un restaurateur de l'Aude. C'est absurde pour Gérald Darmanin. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics annonce sur RTL qu'un nouvel arrêté va mettre fin à cette situation ubuesque, Carmel Lévy.
Oui, au Mesturet, dans ce bistrot parisien, tous les serveurs et cuisiniers mangent ensemble sur place avant leur service du midi et du soir. C'est un avantage en nature déclaré sur leur fiche de paye, 3,62 euros par jour. Mais Alain, le patron, lui, depuis un arrêté de 2002, est censé déclarer pour lui le prix du menu entier en avantage en nature. Ici, 26,50 euros par jour, une règle jamais appliquée. Alain la découvre avec effroi, il a vite fait le calcul.
Quand j'ai vu comment ça se passait, j'ai pris les trois dernières années, genre un redressement de 22 500 euros. Je mets la clé sous la porte, très clairement. Moi, je les ai pas en fond de poche. C'est juste invraisemblable. Parce que si maintenant on est redressé sur des choses comme ça, à des sommes comme cela, bah, faut mieux fermer la boutique, hein, c'est clair.
Alors que les restaurateurs se rassurent, le ministre Gérald Darmanin juge cette règle absurde et obsolète. Ce n'est pas parce que vous mangez dans votre restaurant que vous prenez entrée, plat, fromage et dessert, précise-t-il à RTL. D'ici quelques jours, un nouvel arrêté va être signé. Le ministre a déjà envoyé une instruction aux inspecteurs de l'URSSAF leur demandant de ne plus redresser les entreprises sur ce sujet.
Les informations RTL d'Armel Lévy.
Merci beaucoup Armel. Dans un instant, la suite de ce journal. Airbus croule sous les commandes et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
RTL Soir, 18h09.
Thomas Soto. RTL Soir.
Bon. RTL sort 18h10, Thomas Soto et pour la suite du journal, Sophie Orange.
Et c'est Noël en octobre pour Airbus. La compagnie low cost Indigo commande 300 avions, 300 à 320.
Un méga contrat donc pour l'avionneur européen dont le carnet de commandes est déjà bien plein. Plus de 6000 appareils à livrer dans les prochaines années. D'où la satisfaction de Régis Belliot, représentant CGT Airbus Saint-Nazaire.
Une commande de ce niveau, on ne peut que s'en réjouir. D'autant plus qu'en fin d'année, je parle pour l'établissement de Saint-Nazaire, nous allons arriver en fin de production de la 380 et au printemps prochain ce sera la fin de production sur la salle de Toulouse. Donc bien évidemment des commandes de ce niveau continuent de générer un nombre d'heures important au niveau des usines. si des commandes de ce niveau pouvaient maintenir l'emploi sur les sites pour les personnels à statut Airbus, mais également pour le personnel intérimaire, c'est également une bonne nouvelle de ce point de vue-là.
Réaction recueillie par Pierre Julien pour RTL. Après 13 jours de contestation et de manifestations monstres, le Premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé sa démission début d'après-midi. Pour le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, le Liban traverse une crise très grave.
On revient en France avec une histoire sordide, Sophie.
Trois collégiens mis en examen à Toulouse pour viol en réunion et agression sexuelle. Des scènes qui se sont produites en mars dernier, le tout filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Les agresseurs présumés nient la contrainte. Selon eux, les jeunes filles étaient consentantes. Patrick Hisson, vous avez mené l'enquête pour RTL. Au moins une victime a porté plainte.
Oui, elle a 14 ans aujourd'hui, elle en avait 13 au mois de mars dernier, lorsqu'elle assure avoir été violée à plusieurs reprises à la sortie des cours dans un bâtiment tout près du collège Lamartine. Clémence Doumain, qui est l'avocate de la victime.
Ce sont des faits d'une gravité extrême, dont manifestement les jeunes n'ont clairement pas pris la mesure. À 13 ans, on ne peut pas être consentante pour faire l'objet d'actes de pénétration multiples par plusieurs personnes, de manière filmée.
Il a fallu la plainte d'une autre jeune fille pour harcèlement sexuel et le signalement d'un cadre du collège pour que l'adolescente accepte de révéler 6 mois après son terrible secret. Il faut dire qu'elle était menacée par d'autres élèves depuis la rentrée.
Je crois que c'est mis en place après ces faits, une espèce de vendetta à son endroit qui fait qu'elle s'est faite frapper par un certain nombre de personnes à la rentrée, encore une fois de manière filmée, et qu'elle a préféré se taire.
Les trois élèves mis en examen, âgés de 14 et 15 ans, n'ont pas nié les faits, tout en déclarant que la jeune fille était consentante. Lors d'une confrontation, l'un d'eux aurait finalement reconnu que la victime avait bien été contrainte. Une victime aujourd'hui détruite, selon les mots de son avocate.
Patrick Hisson à Toulouse pour RTL.
Du tennis, et c'est le tournoi Master 1000 de Paris qui se poursuit.
Gilles Simon, en revanche pas pour Gilles Simon, qui a abandonné après une blessure aux adducteurs lors du premier set. Belle perf du français Corentin Moutet, qualifié pour le deuxième tour. Isabelle Langer, on vous retrouve en direct. Bonsoir.
Bonsoir.
En ce moment, c'est Hugo Humbert qui est sur le court.
Oui, 21 ans, 56e mondial. Il est opposé au Bulgare Grigor Dimitrov. Vous savez, celui qu'on surnommait Baby Federer, ex numéro 3 mondial, 27e au classement actuellement. Un set partout entre les deux hommes et c'est Dimitrov qui fait la course en tête dans le troisième manche. Il mène 4-2. On attend avec impatience le duel qui débutera pas avant 19h30 entre Jérémy Chardy et le russe Medvedev, 4e mondial, sans conteste le meilleur joueur de cette fin de saison. 3 victoires à son actif en tournoi, 3 autres finales. Ce sera compliqué pour Jérémy Chardy qui en est à son 5e match consécutif en 5 jours à Bercy. Mais gageons que le public saura le soutenir ce soir.
Et on suivra ça avec vous. Isabelle Langer en direct de l'Accor Arena pour RTL.
Merci Sophie.
RTL Soir, 18h14.
Dans un instant, François Hollande est donc l'invité exceptionnel d'RTL Soir et vous aussi, vous aurez la parole.
Et pour parler en direct à l'ancien président de la République, appelez-nous au 3210.
Thomas Soto, RTL Soir.
Savez-vous sûr.
RTL Soir, 18h15, il est l'invité exceptionnel de RTL Soir et dans quelques minutes, eh bien on le sait, maintenant d'ailleurs, il va répondre à nos questions. C'est bien sûr votre invité, Thomas, notre invité, l'ancien président de la République, François Hollande.